Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
Alors, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et à cette occasion, je reçois deux personnes face à moi, Abibata Ouarm et Jim Donovan, à qui je dis bonjour, qui sont, est-ce que si je dis co-réalisateur, je me trompe? Non, co-réalisateur, je ne me trompe pas, du film Koromoso, qui veut dire grande sœur.
Oui.
Voilà, merci d'être là. Un film justement qui va être à disposition du public sur le site de l'ONF le 25 novembre. Je l'ai dit, intitulé Koromoso, et qui veut dire en fait grande sœur.
Absolument, oui.
Exactement. Ok. Pourquoi ce titre-là?
Parce que dans le film, il y a des femmes qui décident de se tenir la main pour s'aider à franchir une étape importante de leur vie, c'est de sortir de la victimisation. Et donc, comme on sait que la sexualité est un sujet assez tabou dans les communautés africaines et immigrées un peu en général, le rôle de la grand-sœur, c'est vraiment de tenir la main d'une femme qui hésite ou qui a besoin de support pour la faire sortir un peu, de la peur, mm-hmm. l'accompagner et la permettre de s'exprimer. Voilà. Mm-hmm. Donc, voilà.
L'excision, sujet difficile, sujet tabou encore, mais votre film ne porte pas sur l'excision. Il est beaucoup plus dans l'accompagnement ou alors, comme vous venez de le dire, vraiment un groupe de femmes qu'on va suivre. Elles ont déjà été excisées et elles essayent de sortir de cette période, de toutes les conséquences et traumatismes que ça crée. Je dis ça vraiment juste pour que les gens comprennent bien. Il ne s'agit pas d'un film sur l'excision en tant que telle, mais c'est après, non?
Bon, voilà, on peut dire que c'est un film sur les conséquences de l'excision.
Voilà, c'est ça.
Mmh. Et aussi un film sur des femmes qui veulent sortir de la victimisation et qui décident de prendre leur vie en main, leur sexualité en main. Vous savez que quand on est victime de quelque chose, c'est vrai qu'on reste victime, mais quand on reste mentalement dans cet état-là de victimisation, il est difficile de faire un pas vers soi-même, vers une certaine liberté. Donc oui, c'est pas... en même temps, c'est un film sur l'excision parce qu'on parle des conséquences de l'excision mm-hmm. là-dedans, mais on parle aussi de solutions. Qu'est-ce qu'on fait à des femmes déjà victimes d'excision? Est-ce qu'on s'entraide entre femmes? Il faut se prendre la main, il faut trouver des solutions ensemble. Et aussi, il faut trouver, des solutions adaptées pour chaque femme. Des solutions qui permettent à ces femmes-là excisées d'avoir une vie un peu meilleure. Surtout, je parle beaucoup, c'est plus par rapport au côté de la santé. Mm-hmm. Voilà. Donc, parce qu'on sait que l'excision cause beaucoup de problèmes de santé. Mais aussi des problèmes psychologiques parce que la femme elle se referme sur elle-même, elle n'a plus confiance en elle et elle n'arrive pas à échanger avec ses amis non excisés de comment elle se sent en tant que femme. Donc elle se sent diminuée, on va dire, elle se sent moins qu'une femme. Mmh. Je ne veux pas trop...
Non, je vous écoutais parce que quand je disais que ce n'était pas un film sur l'excision... Mais vous m'avez bien fait le dire, c'est sur les conséquences. Parce que ce que je voulais dire déjà, surtout pour les auditeurs, c'est qu'il ne s'agit pas de montrer l'excision de dire comment ça se passe, mais c'est de vous montrer le processus après ce qui se passe, parce que c'est généralement que des femmes adultes que vous avez autour de vous.
Oui.
Je signale, vous êtes allé le tourner au Burkina. Si j'ai bien vu, c'est
Burkina, Côte d'Ivoire.
Oui, c'est ça.
Nous avons tourné à Cherbourg.
Burkina Faso. Il faut que je dise bien le nom.
Oui.
Voilà, à Sherbrooke aussi, des images aussi ici. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce film-là?
Pour moi, c'était un peu une conclusion, c'était nécessaire au fait, par rapport au parcours que j'ai eu dans ma lutte contre l'éradication des MGF. Je ne suis pas contre tout, je vais reprendre cette phrase-là, mm-hmm. ok? Pas contre l'éradication, mais pour l'éradication des MGF. C'est très important mm-hmm. que j'utilise le mot pour l'éradication des MGF. pour moi, il était normal de faire ce film-là, de parler un peu de comment je me sens, parce que j'ai passé à travers beaucoup d'étapes dans ma vie et je me suis rendue à un point où, voilà, j'ai réussi à guérir, à sortir de cette victimisation-là et à prendre possession de ma vie, de ma sexualité. Alors, il était tout à fait normal pour moi de faire un film et montrer dans ce film-là aux femmes excisées qui vivent tous les jours avec des souffrances et des douleurs qu'il est possible... Voilà, de changer,
il est possible de s'en sortir.
C'est pas vrai qu'il faut rester victime toute sa vie. Il est possible de prendre contrôle de sa sexualité. Donc vraiment, c'est de montrer ce côté-là positif. Et ensemble, nous sommes plus fortes ensemble, en fait. Au lieu de rester seul dans son coin, lorsqu'on sort, lorsqu'on communique entre nous, on peut s'entraider et les choses avancent mieux.
Ce que j'ai vu, bon, vous les réunissez, il y a beaucoup de... Quel est le terme qu'on utilise? On parle de sororité, et vous le disiez, vraiment le fait d'être entre femmes. La parole est libérée.
Oui.
Et ça, ça se voit, c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est deux... Ma modeste connaissance, c'est la première fois qu'on voit des femmes réunies comme ça et qui en parlent. Généralement, on fait des documentaires, mais on voit c'est une femme qu'on a interviewée. Vous les avez réunies plus ou moins toutes, chacune parlait. Est-ce que ça a été facile de les réunir, de les faire parler?
Ça n'a pas été facile, mais c'est un peu la raison pour laquelle je suis dans le documentaire. Je suis moi-même dans ce documentaire.
Oui, vous êtes à l'intérieur du documentaire. Voilà. Vous êtes un peu le fil rouge, effectivement.
Il fallait que je donne l'exemple. Il fallait que je me mette en avant pour pouvoir permettre justement à ces femmes. Donc, j'ai pris un peu le rôle de la grande sœur et tendre la main aux autres femmes et puis essayer ensemble d'avoir cette discussion-là sur la sexualité. Oui, c'est vrai que comme il est difficile de parler de sexualité en communauté, ça a été un peu difficile, mais nous avons tourné sur 2 ans. Voilà. Donc, ça a permis à ces femmes-là de s'ouvrir graduellement. Et aussi, ça nous a permis, nous, de prendre un peu ce qu'elles nous donnaient un petit peu à la fois. Il ne faut pas trop pousser. Il ne fallait pas vraiment dépasser ce qu'elles pouvaient nous offrir. Mais ça a super bien été. Hein. J'ai été surprise moi-même par moment de voir à quel point il y a des choses qui ont été dites et puis on se sentait bien, il y avait comme un espace sécuritaire en même temps créé dans ce documentaire-là où ces femmes-là pouvaient s'exprimer librement.
Je vais revenir à vous, Abibata, je voudrais me tourner vers Jim Donovan, mais pour lui poser une question peut-être plus... Comment dire ça? De l'autre côté de la caméra, donc en filmant, Qu'est-ce que vous avez découvert?
Honnêtement, ce qui a été difficile pour moi, c'est d'entendre toute cette souffrance. Parce que, à prime abord, je ne connaissais rien sur le sujet, à part le mot, à part un peu de superficiel que la plupart des gens peut-être peuvent dire qu'ils connaissent, mais tant que je n'ai pas rencontré Abby puis que je n'ai pas rentré dans sa vie, j'en avais aucune idée, vraiment. La première étape, c'était de faire démarrer le projet avec les gens de l'ONF puis des amis que j'ai. On a des sujets de films, voici, puis de voir l'ONF nous soutenir, puis graduellement de soutenir Abby. C'était mon premier rôle. Mais après ça, c'était d'être, comme vous dites, derrière la caméra, mais de façon très effacée, puis très... On voulait pas malaiser, là. Puis un homme blanc derrière la caméra, alors que toutes ces femmes africaines parlent... Faut s'estomper.
Faut savoir garder une certaine distance.
Faut savoir disparaître. Mais remarque que Safieta, à la fin, m'appelait son cousin. C'est le cousin d'Amérique. Là.
Voilà.
C'était moi, ça. Mais l'idée, c'était ça. C'était de s'effacer puis de laisser parler les femmes. Et par contre, je peux pas m'effacer. Je veux dire, j'écoutais, j'entendais. Dans le film, il y a des grandes révélations. Abby raconte son traumatisme. C'est la première fois que je l'entendais depuis que je la connaissais. Je l'entendais derrière le Kodak un bon midi là, à Sherbrooke en tournant. Donc, ça a été une grande expérience d'apprentissage. C'était aussi mon premier voyage en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je suis allé tourner là-bas. Ça a été un grand voyage d'apprentissage et puis aussi un exercice de faut être patient avec ses émotions parce qu'effectivement, tu entends des choses que tu comprends pas. Que tu as de la misère à comprendre.
Je suis en train de vous parler. J'ai la casquette, entre guillemets, de journaliste. On n'est pas à la télé, mais je ne peux ne pas, moi, regarder ça comme, en tant qu'homme noir, en tant qu'homme africain. Sauf que dans la région où je suis, effectivement, d'où je suis originaire, ça n'existe pas. C'est quelque chose que je ne suis jamais parvenu à, je dirais quoi, à comprendre, à admettre. Et ce que je trouve intéressant, quand j'ai dit au début que c'était un sujet un peu qui restait encore tabou, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas pour moi un film sur l'excision, c'est l'étape d'après. C'est
oui.
de, le message, en fait, que Absolument. Moi, j'ai compris, c'est de dire à ces femmes, non, tu as été excisé, mais après, tu peux avoir une vie, tu peux avoir une sexualité épanouie, tu peux vivre pleinement ta vie. Et c'est peut-être c'est cet aspect-là que je trouve intéressant. C'était l'idée aussi de départ de ce film-là, de montrer qu'on peut franchir l'étape d'après.
Absolument, c'était l'idée voilà, première, c'est de faire un pas vers soi-même apporter... Voilà, un film d'espoir, c'était un film d'espoir. Donc, ça a été toujours ça, faire un film d'espoir, quelque chose que les gens vont regarder et que lorsqu'ils vont sortir de la salle de cinéma, qu'ils n'aient pas envie d'aller se pendre ou de se mettre une balle dans la tête, mais qu'ils sortent de là en se disant, mais c'est intéressant, ces femmes-là, elles sont courageuses, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Peut-être que je peux faire ci, peut-être que je peux faire ça, ou peut-être que je veux prêter mon oreille à des amis que j'ai dans la communauté ou autour de moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un que je connais qui peut-être envie d'en parler, mais hésite un peu ou ne sait pas trop comment aborder le sujet. Donc, c'est vraiment le but premier de ce film-là, ouvrir la discussion sur le sujet.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on fait des femmes déjà excisées? Qu'est-ce qu'on a comme service pour ces femmes-là?
Mais quand je vois de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup d'informations.
Non.
Il n'y a pas beaucoup de ressources. Que ce soit ici, au Canada, où il y a quand même un peu, mais encore pire, dans, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Guinée. Bref, il y a peu d'informations, peu de ressources.
Il y a peu de ressources, mais ce qui est surprenant, c'est que des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ont très vite appris à faire la chirurgie réparatrice lorsque c'était disponible. Donc, ils sont allés en France avec le docteur Pierre Foldès, ils ont appris comment aider les femmes. C'est pas juste une histoire d'orgasme aussi, il faut le souligner. C'est que, voilà, il y a des femmes qui cicatrisent mal, il y a des tissus nécrosés, il y a l'excision de type 1, type 2 et type 3 qui, voilà, qui visuellement sont pas très beaux à voir, surtout les types 2, les types 3. Donc, il y a des femmes qui ont besoin d'aide au-delà de l'aspect, voilà.
C'est pour ça qu'on dit mutilation.
Voilà, donc faut vraiment prendre le terme, voilà, dans toute ça, faut vraiment la prendre comme elle résonne. Hein. Mm-hmm. C'est une mutilation, donc c'est vraiment une mutilation. Mm-hmm. Donc, il serait normal pour une femme qui ait subi une mutilation d'avoir de l'aide, que ce soit chirurgicale ou psychologique. Et voilà, je reviens à ce que je disais. Au Burkina, par exemple, vous voyez, il est possible de faire la chirurgie. En Côte d'Ivoire, il est possible. Au Sénégal, en Allemagne, il est possible de le faire. En France, il y a tellement de cliniques qui offrent des accompagnements, mais ils ne sont pas juste axés sur la chirurgie. C'est vraiment, ils créent des centres autour où les femmes rentrent, elles se sentent en sécurité, elles ont des échanges avec des thérapeutes, des psychologues. Donc, c'est vraiment un cheminement extraordinaire qu'elles font vers cette guérison-là. Et plus tard, si c'est possible ou si elles le veulent, elles font la chirurgie.
Ok.
Donc, mais voilà, donc par rapport au Canada ici, qui est un pays très, très, voilà, qui est bien connu quand même pour la chirurgie, on fait quand même des chirurgies au Canada ici. Et voilà, le Canada est connu pour cela, il faut le dire. Ben voilà, cette chirurgie-là n'est pas accessible ouvertement. On ne peut pas aller en ligne, taper comme ça, chirurgie réparatrice au Canada.
Pourquoi?
Parce que... faut croire que ça ne touche pas la majorité peut-être des Canadiennes ou que ça touche juste des femmes immigrées. Donc, le problème n'est pas, voilà, c'est pas urgent tout simplement, je ne sais pas.
Il faudrait aborder les jeunes de la santé.
Il faudrait
poser des questions. C'est sûr qu'on n'a pas passé beaucoup de temps à courir après les gens de la santé ici au Canada. Parce que, bon, le focus du film s'est tourné plus vers les femmes eux-mêmes. Mais effectivement, la question se pose. Nous, dans notre film, il y a un docteur à Toronto qui a fait de sa vie sa mission centrale. De créer ça et d'être comme, comment dire, à l'avant-garde. Et donc, grâce à elle, elle a instauré une pratique à, je pense, à l'Hôpital général de Toronto.
Oui.
Elle a dit, si vous voulez m'avoir comme chirurgienne, vous devez m'aider dans ma quête de donner ce service-là aux femmes. Et mm-hmm. elle continue. Mais ça ne devrait pas être elle envers et contre tous. On est dans un pays d'immigrants. Et donc, on accepte ces femmes-là comme étant canadiennes. Alors bon, mais là, maintenant, il faut prendre soin de tout le monde. Mais vous savez comme moi, la santé publique, ben c'est un gros dossier très complexe. Donc, tu sais, faut juste continuer d'en parler. En anglais, on dit « squeaky wheel gets the grease mm-hmm. ». Mais des fois, il faut juste être « the squeaky wheel mm-hmm. », la roue qui fait du bruit.
Oui, qui fait du bruit, mm-hmm. qui attire la force, ça attire l'attention. Quand vous sortez de là, est-ce que ça vous donne... c'est comme ça un peu que moi je vous vois dorénavant. Est-ce que ça vous donne une mission quelque part de... Parce que vous avez en plus parlé de ce... Il y a eu un lapsus, mais c'était ça, l'éradication des MGF, vous en parlez. Est-ce que vous vous sentez une mission?
Absolument. Et bon, ça fait depuis 2006 hein, que j'ai commencé à faire de cette éradication-là ma mission. Lorsque les femmes excisées, les femmes d'un certain âge, les femmes excisées reprennent la parole, reprennent le pouvoir sur leur corps. On a des femmes qui ont vécu, c'est avoir ces femmes-là, c'est pas avoir, mais de les utiliser comme outil de sensibilisation. Mm-hmm. Parce que les femmes qui ont la parole libérée peuvent facilement aller vers d'autres femmes et dire, écoute, moi j'ai subi l'excision, voilà ce que ça m'a créé comme tort, c'est pas bien, il faut pas le faire. Donc permettre à ces femmes-là qui veulent prendre la parole de le faire, de guérir comme il faut, ensuite de les utiliser à aller comme un outil de sensibilisation. Donc, c'est ce que je fais, moi. Et je pense que, je crois fermement que lorsqu'il y aura plus de femmes comme moi qui prendront la parole et aideront, et seront, c'est une femme, et seront les grandes sœurs de d'autres femmes, ben les choses vont changer encore plus. Et si on réussit à faire à regrouper beaucoup de femmes, on peut facilement aller devant le gouvernement aussi et dire, écoute, il y a 200 000 femmes au Canada qui sont victimes d'excision. On a besoin de services.
200 000 femmes au Canada.
Qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde le taux d'immigration, mm-hmm. non, mais avec les gens qui rentrent, les femmes, il y a de fortes chances que, c'est un chiffre que je prends, par exemple, mais je suis sûr qu'il y en a peut-être plus.
Peut-être plus, ouais.
Oui. Mm-hmm.
Donc, il faut continuer quelque part la sensibilisation. Là, je sais qu'on a parlé du Canada. Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez au Burkina Faso. Le film a été présenté là-bas?
Pas encore.
OK.
On espère que,
Elle a eu du Maroc, où on a gagné un prix pour du jury pour le film.
Ah, mais dites-le fort!
Abby arrive du Festival de Salé, donc.
Oui, Festival.
Et c'était notre première incursion sur le continent africain.
Oui.
On l'espère qu'on aura d'autres occasions de le présenter en Afrique, ça c'est sûr.
Absolument.
Mm-hmm. Oui. Dans au Maroc, lorsque vous le présentez, oui, vous avez gagné le prix donc dans le cadre du festival, mais est-ce qu'il y a eu des réactions? Et là, je pense plus aux réactions d'hommes peut-être.
C'est curieux, il y avait beaucoup d'hommes. La plupart des gens qui posaient des questions étaient des hommes. Les femmes ont beaucoup écouté. Et les questions qui sont sorties, bien sûr... était lié un peu à la religion, pourquoi je dirais qu'ils étaient un peu contents, c'est un peu un plaidoyer qu'ils ont fait au fait, ils soulignaient le fait que c'était pas la religion qu'ils demandaient, il y en a qui disaient que ça vient de l'Égypte, c'est dit dans le film, donc c'était un peu un plaidoyer, je pense, de leur part pour dire, je suis homme, j'ai rien à voir là-dedans, ma religion n'a rien à voir là-dedans, c'est une pratique qui se fait, ça vient de l'Égypte, c'est pas nous, quoi.
Mm-hmm.
C'est un peu ce qui est ressorti, et aussi un peu ce qui est ressorti d'autre, c'est le fait que tout était sur la table, on parle de religion, on parle d'hommes, du patriarcat, on parle de santé de femme, on parle de culture qui, des fois, contrôle la femme. Ils trouvaient que c'était beaucoup de choses en même temps dans le film.
Contre eux.
Contre les hommes, ouais. On va dire. Et ce que j'ai répondu, c'est que, justement, il était temps d'avoir cette discussion-là. Et c'est pour ça que tout est sur la table. Il faut s'asseoir et puis vraiment parler de la situation. C'est grave, on parle de santé de femme. Il y a déjà, je pense que les femmes ont déjà assez de souffrance dans la vie pour leur créer un handicap sexuel. Donc, il faut faire le débat.
Mais la conversation, elle est internationale maintenant. Là. Je veux dire, quand on était dans nos débuts, on était au Festival des droits humains à New York, à Londres, à Toronto, qui nous ont pris sous leur aile. Et on se rend compte qu'en 2023, c'est un sujet global, le droit des femmes. Tu sais, je veux dire, avec ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'on renverse des lois d'il y a 50 droit, ans sur l'avortement. Ou encore tout ce qui se passe en Iran avec la violence quasiment quotidienne contre la femme là-bas, avec le port de la voile et l'excision, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à discuter et il y a beaucoup de combats à mener.
Oui, Jim Donovan, vous le dites, c'est international. Bon, n'en reste pas que moins que nous, on est ici au Canada. On est même encore au Québec. Là, le film, il va être mis à la disposition du public, notamment le 25, dans quelques jours. Mais qu'est-ce que l'auditrice, l'auditeur qui nous entend, qui vous entend surtout aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Je vais sauter.
Oui, oui.
Je vais sauter dedans parce qu'on a souvent répondu à cette question-là. Et Abil le souligne dans le film. L'important, je pense, c'est que la nouvelle génération de femmes et d'hommes sont à l'écoute. Parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que ces choses-là n'existaient pas dans la génération de sa mère ou de son père. Et donc, il y a la possibilité pour la diaspora canadienne, par exemple, qui ont un grand pouvoir sur leur famille au pays, d'avoir une influence sur leurs frères et sœurs, leurs parents, leur tout le monde. Et bon, au-delà, mettons, des victimes, il y a aussi les gens qui peuvent peut-être prendre conscience et peut-être parler à leurs frères, leurs sœurs, et changer les choses. Je pense que c'est ça le message pour un public canadien, québécois. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants ici, et qui seraient peut-être plus touchés par le film que les autres. Donc, voilà.
Si je peux ajouter...
Abby, tu veux ajouter quelque chose? Oui, non.
Si je peux ajouter, c'est de pas juger très vite souvent la culture des gens et autres, parce que ça fait que des fois ces femmes-là qui ont vécu, qui ont subi l'excision, ont de la misère à s'ouvrir. C'est difficile de s'ouvrir quand tu arrives quelque part et ce que tu entends pour eux, mais c'est barbare, votre culture elle est vraiment barbare, c'est trop sauvage. La personne ne va pas, elle peut pas changer. Ce qui lui est déjà arrivé, c'est trop tard, c'est déjà arrivé. Mais là, du coup, quand on s'attaque à sa culture, à elle, elle sait déjà que c'est pas bien. On n'a pas besoin de lui redire ce qui s'est passé. Elle le sait déjà. Mais quand elle vient pour en parler, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'une main tendue qui dit « Ok, je suis là, tu es une femme. » C'est pas parce que tu es une femme noire que ton problème est différent. C'est pas parce que tu es une femme noire ou indonésienne que ta souffrance ne fait pas aussi mal que la mienne. Donc, oui, c'est une souffrance humaine. Viens, assieds-toi avec moi, on va en parler. Comment je peux t'aider? C'est vraiment le temps de la main. Comment s'entraider en tant que femme? Parce que du moment où on met la culture en avant, du moment où on met la race en avant, ben on crée déjà des barrières. Déjà que la femme excisée a déjà même ses propres barrières à elle. C'est difficile pour elle d'aller vers quelqu'un en parler. Donc quand on met déjà ces barrières-là de plus, ça crée un bloc qui fait qu'il n'y a pas d'ouverture. Et c'est ce qui fait que l'excision, et c'est ce qui fait que voilà, la discussion sur l'excision est difficile à avoir.
Et quand, mais il faut qu'on laisse cette discussion.
Il faut l'avoir. Et les femmes sont souvent dans l'ombre, justement. Moi, quand je suis arrivée au Québec, si je me rappelle, au Canada, mais à Montréal, d'abord au Québec, d'abord à Québec, voilà. D'abord à Québec, j'ai eu la difficulté à avoir un médecin qui pouvait m'expliquer ou me donner des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Puis, bon, je me suis dit, bon, c'est OK, il s'est passé quoi. Je vais, voilà. Ensuite, à Montréal, quand je voulais aller faire mon opération à San Francisco, je voulais juste une lettre. Je voulais qu'il me fasse une lettre qui dit, voilà, elle ne peut pas avoir l'opération ici. Ça se fait pour le Canada. Elle veut aller le faire aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle demande un visa. Juste ça. J'ai pas pu l'avoir. Le médecin n'était pas capable de me faire cette lettre-là. Alors, je me suis débrouillée moi-même. J'ai écrit une autre lettre que j'ai soumise à l'ambassadeur américain quand je faisais ma demande. Et il a eu plus pitié de moi que quelqu'un de la santé. Donc, pour dire que des fois, en général, c'est vraiment difficile de lutter pour une cause lorsque les gens la cachent. Elle avance lentement. Et voilà. Donc, les gens qui écoutent, ouvrez vos oreilles, tendez vos mains, mettez les jugements à côté, et puis voilà. C'est un problème de femme.
Et surtout, allez voir le film.
Oui.
Et surtout, allez voir le film. Merci à vous deux. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous en parler. C'est un sujet, à mon avis, qui mérite plus de temps que ça. Mais c'est déjà, je vais emprunter votre expression, on ouvre la conversation. Et puis, on verra quelle est la suite. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Merci.
Mon nom est Cyril Ekwala.